talmudique. Je voudrais revenir sur une déclaration du président Macron qu'il formula avant les fêtes de Noël. Lors de sa conférence de presse du vendredi 11 décembre dernier, il déclara « Noël est entre nos mains ». Nous devons, ajouta le président, redoubler de vigilance, limiter les contacts avec d'autres foyers, évidemment se retrouver, mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux, et être beaucoup plus attentifs à l'autre et à soi. Ces déclarations furent importantes à ce moment-là, non seulement à cause de la question sanitaire et de l'invitation à la vigilance face à la pandémie, mais parce que ce fut l'occasion pour le mot Noël d'entrer dans le discours politique associé à une formule dont les enjeux ne peuvent que nous questionner. Les exemples sont nombreux et donnent ainsi à la formulation « Noël est entre nos mains » une portée politique qui dépasse de loin la seule référence à une fête du calendrier qui marque la fin de l'année et nous rapproche de son renouvellement. Portée politique d'autant plus intéressante à souligner du fait que nous sommes dans une république laïque et que Noël est une fête qui, certes aujourd'hui, concerne tout le monde, du moins d'un point de vue économique et calendaire, mais n'en reste pas moins l'une des fêtes religieuses les plus fondamentales et fondatrices du christianisme puisqu'elle commémore la naissance de Jésus. Dès lors, Noël est entre nos mains, nous invite à nouveau frais à nous interroger sur la place et le sens du fait religieux dans notre société. Et de manière plus précise encore, de prendre le temps de nous questionner sur le sens de cette tradition religieuse et le sens qu'elle peut avoir aujourd'hui au-delà des églises et des clochers, au-delà de son évolution à travers le temps et l'histoire, au-delà des institutions diverses, théologiques et politiques qui s'en sont revendiquées. Cela exige de notre part de la curiosité, quelles que soient nos traditions religieuses. Qui est Jésus ? Son histoire, son enseignement, les enjeux de sa parole. Comme il faudrait se poser les mêmes questions vis-à-vis des autres traditions. Apprendre pour savoir et comprendre et partager. Et pour explorer ces questions, il ne fallait pas moins les talents conjugués d'un écrivain et d'un dessinateur pour tenter cette approche, ce regard éloigné, peut-être en passant par l'art, qui, comme disait Lévi-Strauss, donne des perspectives sur notre époque. Serge Bloch et Frédéric Boyer, bonjour.
Bonjour.
Serge Bloch, Frédéric Boyer, on ne vous présente plus, comme l'on dit classiquement à la radio, mais je rappellerai cependant quelques points de repère, car ils me semblent particulièrement importants pour la compréhension de notre propos d'aujourd'hui. Serge Bloch, vous êtes illustrateur et auteur, se partageant entre l'illustration pour les enfants, les dessins de presse, les expositions personnelles et des travaux publicitaires. Vous êtes le créateur de Samsam, Zouk, Toto, Max et Lily, et vous avez travaillé pour de grandes marques telles que Coca-Cola, Hermès, RATP, Samsung, Mondial Assistance et j'en passe, comme je passe aussi sur les très nombreux prix dont vous avez été le récipiendaire. Frédéric Boyer, vous êtes écrivain, traducteur, éditeur, ancien élève de l'École Normale Supérieure, auteur d'une trentaine de livres depuis 1991 qui furent l'occasion de nombreux prix prestigieux. Vous avez aussi dirigé chez Bayard le chantier de la nouvelle traduction de la Bible. Vous êtes aujourd'hui directeur des éditions POL après avoir été directeur des éditions de Bayard où vous publiez aujourd'hui avec Serge Bloch un livre intitulé « Jésus, l'histoire d'une parole ». Ma première question, Serge Bloch, portera sur votre rencontre avec Frédéric Boyer et comment vous est venue l'idée de ce livre. Et j'aimerais que vous nous en décriviez la forme qui se présente comme un dialogue entre le texte et l'image. Et comment avez-vous relevé le défi de dessiner non pas seulement l'histoire d'un personnage, mais de sa parole, comme le dit le sous-titre. Qu'est-ce que dessiner une parole, Serge Bloch ?
Alors, la rencontre avec Frédéric, elle date d'il y a peut-être 5 ou 6 ans, quand on s'est attaché à faire une Bible en 35 histoires que Frédéric avait écrites. L'idée venait de Frédéric et de l'éditeur, je pense, de Bayard, qui voulait faire une Bible en animation. Et en fait, ça donnait la forme de ces deux livres, parce que Jésus, l'histoire d'une parole, est le tome 2 d'une œuvre. On peut dire, enfin, en tout cas, ils sont très liés dans la forme et dans l'esprit. Et donc, il fallait absolument, par contrainte, que les histoires, chaque chapitre, chaque histoire, puisse être l'objet après d'une animation. Donc, il fallait qu'elle puisse être lue en 4 minutes. Et ça obligeait Frédéric à être succinct. Et c'était sûrement pas facile pour lui de faire, l'Apocalypse ou en peu de signes. Et moi, je me suis donc employé à m'appuyer sur son texte, et j'ai dessiné, j'ai mis en image tout ça, en pensant aussi avec l'animation qui devait être aussi un des buts de ce travail. Et c'est pour ça que cette forme de roman graphique est apparue, et c'est comme ça qu'on a fait ces deux livres. Donc ce Jésus est découpé en 12 chapitres et ils sont illustrés de je ne sais combien de dessins, parce que c'est vraiment un roman graphique.
Et c'est un dessin animé qui a été lu par des acteurs prestigieux, je crois.
Alors justement, comme c'est un projet global qui était de faire un livre, donc avec un auteur, un dessinateur, mais aussi de le mettre en image, animation, on a eu la chance d'avoir des lecteurs extra, comme Dusselier pour le premier livre et Jeanne Balibar pour le deuxième. Et en plus, on a encore la musique qui vient s'ajouter à tout ça, et on a deux musiciens de jazz qui nous ont donné les musiques pour le deuxième, ce livre de Jésus, Vincent Courtois et Yuka Okazaki.
Et alors, dessiner une parole, Serge Bloch?
En fait, quand on est illustrateur, on dessine immanquablement des paroles, enfin les écrits, les paroles.
Oui, mais on peut dessiner le récit, une aventure. Là, c'est le sous-titre, c'est « Histoire d'une parole ». C'est le personnage, c'est la parole.
Alors en fait, moi je l'ai représenté, en tout cas cette parole, comme un souffle qui traverse le livre. Mais j'avais déjà utilisé ce fil, enfin ces représentations à d'autres moments dans le premier bouquin, mais aussi dans d'autres livres que j'ai fait. C'est un fil rouge, c'est un souffle qui traverse tout le bouquin.
Alors Frédéric Boyer, on vient d'entendre Serge Bloch. Pour vous, quel est l'enjeu de ce livre? Le sous-titre est très intéressant, je viens d'en parler. Histoire d'une parole. C'est la parole qui est donc le personnage principal. Comment ce choix s'est traduit dans la construction de ce livre? Quelles sont les paroles que vous avez choisi de faire parler? Et que faut-il entendre par le terme de parole, qui est à la fois un mot si simple et si complexe, Frédéric Boyer?
Oui, d'abord, il y a une petite histoire assez drôle dans la conception du livre, c'est que, qui concerne Serge, on s'est posé la question tout de suite de savoir comment représenter Jésus. Alors, c'est très compliqué parce qu'on voit tout de suite, on a tout de suite ce personnage Saint-Sulpicien un peu, barbu, etc., qu'on a vu au cinéma, dans la bande dessinée, même dans la peinture. Et Serge et moi, d'ailleurs, on ne voulait pas que le... Et Serge a eu la belle idée de faire une espèce de petit personnage... presque naïf comme ça, juste avec quelques traits, qui peut être un monsieur tout le monde. Mais progressivement, il a bien fallu quand même dans les dessins qu'on le repère, le pauvre. Et donc Serge a fait cette petite pointe, ce petit trait rouge comme ça, qui dès qu'il parle, suit, voilà. Et donc ce Jésus est un petit personnage qui se bat d'une certaine façon avec sa propre parole et ce trait rouge comme ça qui tout d'un coup se met à circuler sur les pages. Voilà, ça donne un peu l'idée du livre et ça donne aussi l'idée du travail de Serge par rapport au texte. Parce que, et je pense que ça vous parlera à vous, Serge va très vite dans l'abstraction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dessine des choses pour les enfants, beaucoup. Donc, il a cette vivacité, cet humour, cette familiarité presque spontanée. Mais finalement, cette spontanéité l'amène tout de suite aussi vers l'abstraction. Et c'est ce qui nous a beaucoup servi dans ce volume, peut-être plus que dans le précédent d'ailleurs. Parce que dans l'Ancien Testament, on avait les grandes épopées, tout ça, c'était assez rigolo. Là, c'était plus difficile de raconter, comme vous dites, une parole, de raconter des échanges. Et Serge a fait un très beau travail, mais presque naturel, dans son rapport à l'art, ça, avec une abstraction que je trouve extrême, qui dit beaucoup plus de choses que finalement si on avait essayé d'illustrer exactement des histoires et des propos qui parfois sont difficilement illustrables et pour échapper à des conventions, à des clichés. Donc le projet, il est venu, donc il s'est fait comme ça. Et le projet, c'était un défi, d'abord, effectivement, puisque c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, ça m'est apparu beaucoup plus difficile à raconter justement que je sais pas toute l'Odyssée d'Abraham ou l'histoire de David, voilà, où on a quand même des éléments et de légendes et d'histoires qui font que c'est là. Alors oui, Jésus, on a dans les quatre textes évangéliques on peut bâtir un récit, mais justement j'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu écrire une vie de Jésus, même si d'une certaine façon c'est quand même aussi une vie de Jésus, mais j'ai voulu partir d'une sorte d'énergie ou d'intensité qui, moi, me paraît fondatrice de ces textes-là. Et cette intensité, c'est le rapport à la parole. D'abord, la parole que Jésus a reçue, c'est-à-dire cette parole, la parole qui l'a précédée, la parole de la Torah. En tout cas, c'est comme ça que j'ai travaillé. Pour moi, ce personnage, Jésus, est effectivement, est d'abord un maître. D'ailleurs, il est qualifié comme ça dans les textes. Il est qualifié de rabbi, de maître. C'est quelqu'un qui se déplace et qui va enseigner dans les synagogues, au temple. Et en gros, sur les quatre évangiles, il passe 80% de son temps à enseigner, hein, et un peu partout. Alors, il va aussi enseigner à l'extérieur, auprès des foules. C'est un peu spectaculaire parfois, mais sa vie, c'est son rapport à la parole, et sa vie, c'est son enseignement et la discussion, puisque toutes ces histoires évangéliques et toutes les paraboles que l'on connaît ou que l'on croit connaître, elles viennent justement d'une situation de discussion que l'on retrouve dans beaucoup de textes du judaïsme qui ont précédé les évangiles et qui suivront ou qui les accompagneront, où effectivement la parole est un enjeu de la discussion entre nous. Voilà. Tu sais cette parole-là de Moïse ou de je sais pas qui, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais avec aujourd'hui? Comment tu l'interprètes? C'est exactement ce qui se passe dans les évangiles, avec une radicalité parfois assez surprenante, mais que l'on retrouve tout à fait dans les histoires talmudiques, justement, où la parole est mise en question, et la mise en question de la parole met en question l'existence des uns et des autres. Voilà, et c'est la grande force de l'évangile, selon moi, et c'est ça que j'ai voulu essayer de faire entendre un tout petit peu dans ce volume.
Frédéric, je pensais aussi à cette réflexion de Régis Debray, le sacré ce n'est pas le divin, ce n'est pas le surnaturel, c'est ce qui nous fait tenir ensemble. Qu'est-ce que dans l'histoire de cette parole du personnage de Jésus que vous mettez en scène, considérez-vous comme sacré au sens de nous faire tenir ensemble, de faire société, Frédéric Boyer?
D'abord, je pense que c'est un des enjeux de ces textes, et même je dirais c'est un des enjeux de la geste de ce personnage, de ce Galiléen qui va tout d'un coup bousculer quelque chose. Mais l'enjeu de tous ces textes que l'on a collationné à partir de sa mémoire, c'est effectivement d'essayer de rendre compte du désir de communauté entre nous. Probablement parce que ce désir de communauté est vraiment une question. Alors, je trouve que c'est une question très contemporaine aujourd'hui, donc on peut en parler. Mais qu'à l'époque aussi, à l'époque de ce Jésus, à l'époque de ce premier siècle, en tout cas en Judée, en Galilée, la question de la communauté était sérieusement bousculée, y compris au sein du judaïsme, qui était plutôt éclaté, divisé, dans un pays et des provinces qui étaient occupées, et avec des questions à la fois théologiques, existentielles et politiques qui étaient extrêmement importantes. Et donc effectivement, ce qu'on va appeler l'évangile, c'est-à-dire littéralement effectivement l'heureuse nouvelle, la bonne nouvelle, va se réaliser autour de cette question de comment faire communauté, comment retrouver la tension communautaire entre nous, sachant que c'est jamais une tension de repli ou d'exclusion, et c'est ce que effectivement ça va. C'est le grand message évangélique, hein. Jésus, c'est un espèce de judoka, hein. Il nous fait tous trébucher sur nos tentations de repli. Donc à chaque fois, il laisse venir le repli, et puis tout qui dit ah ben non, mais là tu peux pas faire ça. À chaque fois, c'est l'idée effectivement de rappeler, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, voilà. Et où est la pointe qui va nous interroger sur notre relation et sur nos liens. Et donc pour rebondir sur votre question sur le sacré, effectivement dans l'évangile, il y a, alors je parle de l'évangile, mais je pense que il n'y a pas que dans l'évangile que ce déplacement est fait, mais enfin bon, je pense même que c'est un déplacement qui est propre à la matière biblique d'ailleurs, enfin à notre. Le déplacement, c'est justement porte sur le sacré. Il y a une grosse interrogation sur cette question de qu'est-ce que c'est le sacré finalement. Et en tout cas, puisqu'on parle de l'évangile, dans les évangiles, le sacré, tout d'un coup, est repéré dans les relations entre nous.
Serge Bloch, est-ce que votre trait, votre plume, vos couleurs ont été infléchis par le thème particulier de ce texte? Ou dit autrement, quelles options esthétiques ont guidé votre dialogue avec Frédéric Boyer? Comment dessiner sur Jésus de façon à ce que ce dessin transcende le risque d'une lecture fidéiste et d'adhésion religieuse? Serge Bloch, comment dessiner le sacré au sens défini à l'instant de ce qui fait société?
En fait, j'ai la chance d'avoir le texte de Frédéric quand je me mets à travailler. Et dans le texte de Frédéric, il y a d'abord une grande poésie, et c'est là-dessus que je m'appuie pour avoir la liberté de créer. Je suis désolé, il y a les pompiers qui passent devant chez moi. Mais...
C'est le miracle du direct.
Donc, je disais que le texte de Frédéric étant poétique, je me sens très libre dans mon travail. Et surtout pour reprendre un peu ce que disait Frédéric avant sur la représentation de Jésus, parce que ça m'intéressait beaucoup, ça m'inquiétait beaucoup au départ, parce que autant j'étais quand même assez à l'aise dans l'Ancien Testament, puisque c'est ma culture, Autant là, j'étais un petit peu plus étranger, et je voulais surtout pas faire de Kurt Cobain ou de clichés de Jésus. Et ce qui a été une grande surprise dans ce livre, c'est qu'en partant de ce petit bonhomme, petit à petit, il s'est dessiné pour arriver justement sur la couverture à ce visage qui est plus classique. Parce que c'était une surprise, parce que comme je dessine, je m'appuie sur son texte de manière très libre, comme de l'improvisation presque, je me retrouve avec des surprises et le sacré, c'est peut-être ça.
Et ça reprend un petit peu peut-être aussi cette idée que vous développez, Frédéric Boyer, dans un des mots-clés de ce livre, qui est l'inattendu, et c'est peut-être l'inattendu, cette surprise dont parle Serge Bloch à l'instant, qui est le miracle, Frédéric Boyer.
En tout cas, ce mot-là, l'inattendu, effectivement, j'ai voulu que ce soit un peu le motif du livre, effectivement, et le motif de cette histoire, parce que la difficulté que j'ai eue, moi, c'est pas de représenter Jésus, c'est de le faire apparaître. C'est de savoir comment on allait introduire cette histoire. Il y a 2-3 chapitres d'ouverture, en quelque sorte, qui sont une réflexion et un récit sur la façon dont on a pu attendre à l'époque quelqu'un, quelque chose, un événement, c'est-à-dire cette attente messianique qui était elle aussi très diversifiée, qui était elle-même une question, c'est-à-dire à qui on devait attendre, est-ce que c'est Élie, est-ce que c'est un roi, est-ce que c'est David, est-ce que c'est un guerrier, est-ce que c'est un prêtre, est-ce que c'est je sais pas quoi, un libérateur, voilà. Et toutes ces questions, et dans quel éclat il allait venir, et j'emploie l'expression à dessein, puisqu'il y a une très belle phrase de Pascal, qui, parlant de Jésus, disait « Il n'est pas venu dans l'éclat attendu », et ça va être toute la question de cette histoire.
La voiture démarre, hop, messieurs les chevaux, vous êtes partis, et maintenant la voiture va laisser les chevaux sur place de manière à pouvoir regarder le démarrage de la voiture. Elle replie les ailes, et nous revenons sur les chevaux, tandis que Lanzinghanover est à la corde. Le départ a été fort bien donné, et Roquépine est parfaitement bien placé. Roquépine, ensuite Somfer, et puis l'un des camarades d'écurie de Roquépine, c'est-à-dire Oscar Herel. Oscar Herel et Roquépine, premier et second pour le moment. Chacun des deux chevaux a gagné entre 2,5 millions et 3 millions de francs nouveaux dans sa carrière. Vont-ils mettre un point final en terminant premier et second? En tout cas, le 16, Oscar Herel est à la corde. Le 18, Roquépine est à l'extérieur. Derrière eux, nous avons Tabriz, le 2 qui fait une très bonne descente, puis le 12, Seigneur, puis le 11... c'est-à-dire Somfer et puis Kazakh avec des manches blanches, c'est le très fantaisiste et très inattendu ici Rockwitz. Toujours en tête à la corde Oscar Herel, et puis Roquépine, et puis Tabriz, et puis Pickwick qui a une croix sur le dos avec une toque blanche qui est arrivée en quatrième position. À l'extérieur, Rockwitz, Oscar Herel qui sont dans le peloton de tête, mais ils ont cédé la place de leader à Pickwick. Pickwick qu'on n'attendait pas à la fête si tôt. Pickwick et Roquépine, étant donné que Roquépine et Oscar Herel ont à peu près ont la même casaque, je vous rappelle que Roquépine a le numéro 18 et Oscar Herel le numéro 16. Il reste encore 1600 mètres à faire, 1500 mètres environ, et c'est Pickwick qui démarre devant Roquépine et Tabriz, tandis qu'Oscar Herel surveille les opérations. Roquépine va prendre la tête, Jeannot Goujon. On va illuminer Avrigny dans l'ordre. Jeannot Goujon s'est arrangé pour lui faire prendre la corde. Roquépine, Tabriz et le 6, c'est-à-dire Querido 2. Roquépine à la corde, attaqué par Querido 2. Cela va être une très belle fin de course. Roquépine, Querido 2, Tabriz. Et puis Tony M, lancé par Kruger, qui arrive à fond de train. Alors que le 5, Royal Boy VT, est distancé pour allures irrégulières. Roquépine entre en tête dans la ligne droite. Jeannot, est-ce que vous allez lui faire gagner son troisième prix d'Amérique? Roquépine, Tabriz, Querido 2, Tony M. Roquépine a gagné, ne vous retournez pas, Jeannot. Il y a Tabriz qui survient à fond de train. Roquépine, Tabriz, Tony M. Roquépine, Tabriz, Tony M. Tony M, il finit terriblement fort. Roquépine, Tabriz, Tony M. Ou Roquépine, Tony M, Tabriz. En tout cas, Roquépine a gagné. Deuxième et troisième, Tabriz et Tony M. Nous allons savoir dans un instant qui a pris la deuxième place.
Léon Zitrone commentant le prix d'Amérique 1968. Oui, vous êtes bien dans l'émission talmudique et nous sommes bien en train de parler de Jésus. et du très beau livre de Serge Bloch et Frédéric Voyer intitulé « Jésus, histoire d'une parole ». Et vous vous demandez donc que viennent faire ici les chevaux. Pour répondre à cette question, sans doute faut-il que je vous fasse une révélation, c'est-à-dire en grec une apocalypse. Un mot qui vous est cher, n'est-ce pas Frédéric Voyer, vous qui concluez ce livre avec un chapitre intitulé justement Apocalypse. Je m'aperçois qu'en parlant et en vous posant la question, je commence à parler comme Léon Zitrone. Chapitre merveilleusement illustré par un tiercé dans l'ordre ou le désordre, je ne sais, où l'on sent que Serge Bloch s'est particulièrement fait plaisir. Que signifie ce mot Apocalypse et pourquoi les chevaux, Frédéric Voyer?
Parce qu'effectivement, il fallait bien trouver un tiercé gagnant à la fin. Là. Et parce que c'était pas du tout évident de finir ce livre. On pouvait suivre le dénouement évangélique, mais qui est finalement assez postérieur à toute cette histoire, qui est de l'envoi en mission des apôtres, etc. Bon, mais c'était pas le propos ni du projet ni du livre. On pouvait finir aussi de façon, on aurait pu finir de façon très dramatique, comme l'évangile. Le premier évangile de Marc qui se termine sur la stupeur et la peur des femmes devant le tombeau vide. Bon, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas finir sur ce qui récapitule tout selon le christianisme, c'est-à-dire ce livre très étrange qui s'appelle Apocalypse, qui signifie littéralement dévoilement. Et l'idée est de dévoiler ce qui s'est passé finalement. C'est-à-dire, en fait... Pour moi, l'Apocalypse, effectivement, c'est un peu comme une. On va enfin savoir qui a gagné entre guillemets, voilà. Et donc, on va récapituler toute l'histoire du salut dans un espèce de livre très étrange, très symbolique, où on convoque toutes les images de la tradition, notamment celles de la grande tradition prophétique, comme celle d'Ézéchiel, mais aussi probablement, je pense moi, de traditions de lecture ésotérique, symbolique, qui existait déjà. Et on va essayer de condenser quelque chose, et on va donner le tiers. Est gagnant. Alors là, c'est pas celui qui va gagner à la corde, ça n'est pas un cheval, c'est un agneau. Voilà. Mais effectivement, il y a des chevaux dans l'Apocalypse parce qu'il va falloir symboliser notre rapport à l'histoire, notre rapport à la violence du monde, notre rapport à la... Et ce qui va symboliser ça, cette tension finalement, cette course dans laquelle nous sommes dans le temps, puisque l'Apocalypse est aussi un livre messianique d'une certaine façon, parce qu'il célèbre... la consécration et vraiment la réussite du Messie, c'est en ce sens que c'est peut-être le livre le plus chrétien qui soit, l'Apocalypse, eh bien, c'est une course avec ses chevaux qui symbolisent qui la guerre, qui la violence, qui la famine et la paix. Et c'est ces quatre chevaux qui, à un moment donné, dans un des chapitres de l'Apocalypse, sont lancés comme ça dans cette course. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas Léon Zitrone, mais c'est pas mal.
Alors Serge Bloch, on sent que ce passage vous a particulièrement inspiré. C'est une formule car tout le livre respire l'inspiration, si l'on peut dire. J'ai trouvé dans les chevaux que vous avez peint une dynamique du trait et du mouvement qui m'a rappelé le célèbre tableau de 1911 de Kandinsky intitulé Lyrique. Comment cette intertextualité vous parle, Serge Bloch?
Alors ce passage, effectivement, ne m'a pas particulièrement plus inspiré que les autres. J'y voyais plutôt un côté Goya que Kandinsky parce que c'était plus expressionniste et... En tant que dessinateur, c'est une de mes grandes angoisses, c'est de devoir dessiner les chevaux, faut que je l'avoue, parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Donc j'ai choisi effectivement de le traiter de manière très énergique et très... Parce que pour moi, c'était vraiment un souffle, encore une fois.
Revenons, si vous voulez bien encore, Frédéric Boyer, sur le mot apocalypse. C'est un mot ancien, mais d'une grande actualité, que vous évoquez d'ailleurs dans l'un de vos autres livres, dont nous parlerons la semaine prochaine, et dans lequel vous écrivez « Le livre de l'apocalypse convoque d'une certaine façon un espace d'interprétation du malheur, des images extrêmes pour rendre visible et audible le mystère de ce que nous vivons. Il propose une sorte de médecine visuelle, de thérapie littéraire de l'immense détresse de l'homme et du monde contemporain. Comment ce livre sur Jésus, qui se termine sur ce thème des cavaliers de l'Apocalypse dont nous venons de parler, est-il une médecine visuelle? Et tout d'abord, Frédéric Boyer, qu'est-ce que c'est qu'une médecine visuelle?
Oui, c'est-à-dire, je fais référence à la tradition chamanique, voilà, avec les medicine man, voilà, qui sont des Sioux, des Apaches, qui viennent effectivement et dont le travail de guérison ou d'apaisement ou de ou de discernement se fait beaucoup, effectivement, par des symboles imagés, par des gestes ou des dessins ou des constructions, effectivement. Et dans l'Apocalypse, comme dans tous les grands textes d'ailleurs, on parlait d'Ézéchiel tout à l'heure, mais il y a ce rapport comme ça à l'image qui est un rapport d'action sur l'existence. Et il y a une très belle phrase de Lévinas sur la Bible. Il dit le peuple de la Bible se reconnaît dans une chose, c'est l'action de la littérature sur les hommes, c'est-à-dire l'action effectivement de ce que l'on produit avec les mots, avec les images dans les mots. Et alors vraiment, c'est effectivement, s'il y a un livre qui use de ça, c'est l'Apocalypse, puisqu'elle crée des images pour essayer de nous faire comprendre et peut-être de nous faire accepter l'incompréhensible dans lequel on vit, l'inquiétude dans laquelle on vit. Et donc on va effectivement raconter on reprend les images peut-être d'un fond commun pour parler de la monstruosité de l'histoire, pour parler de finalement peut-être ce dont on a du mal même nous à parler avec nos mots directement.
Alors Serge Bloch, la médecine visuelle, c'est une expression qui doit parler à l'homme des images, des formes et des couleurs. Comment entendez-vous personnellement cette expression et comment cette médecine visuelle donne un sens particulier pour vous, dessinateur, à ce livre sur Jésus dont la question de la guérison est l'un des aspects les plus visibles de son ministère, Serge Bloch?
Alors je ne crois pas être vraiment chaman. Hein.
Mais c'est vrai que quand...
non, pas trop. Mais c'est vrai que pour moi, dessiner, comme c'est raconter, c'est donner des émotions, c'est cette force que je cherche à faire passer dans mon trait, avec un minimum de moyens, c'est là où je me reconnais un petit peu dans ce que disait Frédéric. C'est vrai que si on arrive à avec quelques traits à faire surgir des esprits comme on pouvait le faire peut-être dans les grandes prairies américaines, moi ça me va bien. Pour moi le dessin c'est ça, c'est comme ça qu'on guérit un peu, donner du bonheur ou donner des émotions ou donner de la force ou donner de surprendre, enfin toutes ces choses qui sont dans quelques traits.
Frédéric Boyer, pour continuer sur cette idée de la médecine visuelle ou autre, l'un des textes le plus connus de l'Évangile est celui du paralytique à qui Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». En latin, « Surge tole lectumtum et vade dumum tuam », selon la traduction de Saint Jérôme. Coup de génie, me semble-t-il, quand on sait que le mot « lectus » signifie en latin à la fois « le lit » et la lecture, ce qui permet de traduire « lève-toi, prends ta lecture et rentre chez toi ». C'est la lecture qui guérit. Lecture, un mot-clé de votre livre sur Jésus et l'histoire de sa parole. En effet, chacun des 12 chapitres qui structurent l'ouvrage se conclut par une petite pastille intitulée « lecture ». D'une certaine manière, peut-on dire, Frédéric Boyer, que ce que vous dites à vos lecteurs est « levez-vous, lisez, c'est la lecture qui guérit ».
Ah oui, moi, je pense que c'est le sens du rapport à la parole et au texte lu ou proclamé ou raconté de la tradition qui nous occupe. Et effectivement, c'est à la fois ce que dit cette tradition, et c'est exactement dans le petite image que vous donnez à partir de la traduction latine, ce qui prouve deux choses, c'est que Saint Jérôme était un traducteur qui prenait beaucoup de liberté aussi, parce que le mot grec c'est pas tout à fait lime, enfin peu importe, et que de cette liberté naît quelque chose d'essentiel, donc c'est aussi une leçon sur ce qu'est la traduction. Mais le rapport à ces textes, c'est toujours de dire, voilà, prenez ces textes, lisez-les, et de toute façon, ces textes-là, vous ne les comprendrez que le jour où ils auront agi sur vous-même. Voilà, c'est une drôle de chose, hein. C'est-à-dire que tant que le texte vous aura pas provoqué, d'une certaine façon, il vous sera étranger. Voilà. Donc, effectivement, prenez le texte avec vous, couchez avec lui, couchez sur lui, et essayez effectivement. Et là, la lecture viendra justement. C'est une drôle de, mais c'est beau, effectivement. C'est très beau comme idée.
Alors Serge Bloch, tout le long de ce livre, vos images dialoguent avec le texte de Frédéric. N'avez-vous pas le sentiment, et j'aurais pu poser la même question à Frédéric, que c'est aussi le dialogue, l'amitié et l'intelligence partagée qui guérit et nous font entrer dans la vie bonne en nous permettant de chercher dans le chaos du monde la joie de ce qui fut annoncé, pour citer l'avant-dernière phrase du livre, Serge Bloch?
Alors c'est vrai que, en tout cas pour moi, ça a été une histoire d'amitié ce livre, parce que j'ai découvert Frédéric que je ne connaissais pas, et on est devenus amis en travaillant ensemble, et ça c'était un petit miracle, parce qu'on était quand même assez différents au départ. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est de l'intelligence, ou en tout cas, on a essayé d'en mettre, et on l'a partagé. Et je pense que nous, ça nous a peut-être un peu guéri aussi de travailler ensemble. En tout cas, j'espère que ça se sent, et que les gens, ça leur fera à peu près la même chose.
Bah oui, bien sûr, c'est une histoire d'amitié, mais de toute façon, c'est un projet et une histoire de confiance aussi, parce que c'est pas évident de raconter et de se laisser porter après par les images de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas, et je pense que c'est réciproque, c'est pas évident. Et en fait, on n'a jamais eu aucune difficulté, en tout cas, moi je l'ai pas ressenti, entre nous, ce qui était quand même le défi majeur, hein, c'était de pouvoir travailler vraiment ensemble. En fait, on n'a pas eu de difficulté à travailler ensemble, donc c'est une histoire aussi de communauté qui est belle.
Merci Serge Bloch, merci Frédéric Boyer pour cet échange drôle, sympathique et profond. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jésus, histoire d'une parole, aux éditions Bayard. Vraiment un très beau livre, un cadeau pour les yeux, le cœur et l'intelligence, un livre de paroles, un livre de silence aussi, un livre d'encre et de souffle, d'amitié et d'espérance. Merci encore à tous les deux. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Maïwenn Lejehan. À la réalisation, Doria Zénine. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique. Françoise-Anne, nos invités et toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d'année. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.